Il devrait retrouver ses parents dans très peu de temps à l'abri dans une base militaire.
Everything went to plan and actually to time, which is even more unusual in the Middle East.
فهم منزعجون مما يعتبرونه ثمنا باهظا لكن الثمن
Voir sur ces images en direct, on attend d'un instant à l'autre le discours.
Un peu plus d'un an après les attentats qui ont ensanglanté Madrid, l'Europe a été prise pour cible une deuxième fois par les terroristes.
Faire fiction sur les ondes, écrire aux marges de l'info, c'est en Nouvellement du Monde. Enjoliver sources et sondes, ennouveler les quotidiens, c'est en Nouvellement du Monde. Écrire des nouvelles sur des news, actu trouble et pensées profondes, c'est en Nouvellement du Monde. Imaginer des scoops volants au pays des canards enchantés, c'est en Nouvellement du Monde.
En Nouvellement du Monde est un exercice d'écriture radiophonique hebdomadaire qui respecte une contrainte d'écriture simple, inventer et lire des nouvelles, qui s'inspire d'un entretien mené à partir d'articles de presse. Soit l'article suivant, écrit par Philippe Dagen et publié au Monde dans l'édition du 14 mars 2013, intitulé « Aux ténèbres, de Goya à Cubine, quelles forces obscures animèrent la clarté créatrice ?» Au musée d'Orsay, l'ange du bizarre explore le côté noir de l'art en 200 œuvres. Hélas, trop de vampires tuent le vampire. S'ils sont revenus en grâce, si l'ange du bizarre vient après l'Europe des esprits ou la fascination de l'occulte, présenté à Strasbourg en 2011 sur un thème très proche, c'est que le sujet intéresse notre époque, elle-même consommatrice boulimique de fictions macabres ou supposées effrayantes. Cet engouement a quelque rapport avec l'état actuel de la planète, qui a plus de raisons de redouter sa destruction que d'espérer un avenir radieux. Il semble en effet probable que la passion pour l'horreur réponde au dégoût ou à la crainte que suscite le présent, au début du XXIe siècle, comme au début ou à la fin du XIXe. Cet article a été précédé d'un entretien avec Donatella T., spécialiste de la manière noire. L'entretien a ensuite inspiré la nouvelle néogothique « Manière noire, matière grise » et « White Spirit ». Elle est écrite par Yvan Gros, lue par Julien Leonelli et montée par Flora Gros. Troisième et dernière partie, une demi-tonne de noirceur.
Pour moi, c'est une couleur, la plus importante certainement. Moi je travaille, les gravures c'est noir et blanc. Je suis habillé en général tout en noir. Le noir c'est vraiment magnifique parce qu'il y a des nuances extraordinaires dans le noir. Il y a des noirs bleus, des noirs chauds, c'est là aussi c'est infini. Et puis les plus grands artistes ont travaillé sur le noir. Il y a même des gens comme Marfin qui ont fait des choses extraordinaires. En poésie aussi, toute la richesse du vocabulaire pour définir cette profondeur, elle est en même temps considérée comme une couleur de mort pour certains pays, mais pour une couleur de joie dans d'autres, suivant les religions, suivant les coutumes. C'est la couleur du mystère. Et ça, c'est vraiment fantastique, parce que c'est dans le noir que se passent les choses mystérieuses. C'est dans le noir qui commence tout juste à s'éclaircir aussi que se passent les rencontres des anges et des succubes et des démons. C'est tout ça. Enfin, c'est fantastique. C'est vivant. C'est vraiment tellement vivant.
Il était abasourdi par la nouvelle. S'il avait été la cible d'un tireur embusqué et qu'Alban était en prison, cela ne pouvait être lui. Le sang lui battait les tempes. Il rattrapa la veuve Marceau qui avait repris lentement son train et, l'agrippant par la taille, la stoppa net. Loin de lui l'intention de la brutaliser, il voulait juste la presser un peu. Et comme un séducteur aguerri au regard langoureux, il s'approcha au point de mêler son haleine à la sienne. Dites-moi, belle Marceau, au village, que dit-on de moi ? Et la veuve Marceau, mimant la surprise mais ne trouvant pas la réplique, battit en retraite. Prévost se mit alors insidieusement à lui paumer les hanches. Elle grimaça sans dire un mot. Ce jeu de paume n'était pas du tout un jeu de vilain. Il était tout en délicatesse et en caresse apprêtée. Le paumage était une technique de pointe dans laquelle il excellait. C'était la dernière étape de l'essuyage. Elle consistait à passer délicatement sa paume, talquée au blanc de Meudon, sur la plaque de cuivre, ce qui produisait, grâce à l'énergie de ionisation, deux effets. Le paumage, d'une part, débarrassait de l'encre superflue les zones qui devaient rester totalement blanches. Il rehaussait d'autre part l'encre noire contenue dans la taille ou la barbe et donnait une impression de velouté incomparable. Le toucher de Prévost était remarquable et la veuve Marceau ne résista pas très longtemps à ce traitement. À mesure qu'il l'assaillait de questions, il descendait ses mains à la croupe. Il faut imaginer l'incroyable pouvoir de persuasion que ces fessées électromagnétiques pouvaient exercer sur la volonté. C'était une forme de masothérapie que Prévost administrait à dose homéopathique, voyez-vous. Oh, évidemment, on peut douter de ce genre de médecine douce, bien sûr, bien sûr. Mais la veuve Marceau, qui n'avait pas connu des mois depuis si longtemps, elle ne pouvait se permettre le luxe du doute épistémologique. Ce savant paumage ravivait son désir oublié. Elle était sur le point de se pâmer. Elle craqua tout bonnement et s'exclama alors dans tous ses états « Oh, eh bien, vous, alors t'es presque aussi cochon que monsieur le maire, hein ? Que venait faire monsieur le maire ici ?» Il persévéra et entreprit de lui dérider les fesses pour lui sortir les vers du nez. Elle portait le deuil jusque sous ses jupons. Au contact de ses miches bonifiées, il ne put s'empêcher d'éprouver un sentiment de total gâchis. La Marceau était grosse, mais pas obèse. Elle transpirait facilement, et sa chair, coulant à souhait comme les meilleurs fromages, savait se faire sentir. Encore fallait-il être un connaisseur. Tel l'affineur auvergnat qui reconnaît les meilleurs cantals, parce que la croûte a été grignotée par les rats, il retourna la veuve comme une bonne vieille fourme afin d'en apprécier la générosité affirmée. Pourquoi laisser se perdre un tel trésor millésimé? Enfin, à la longue, elle finit par tout lui avouer. On racontait que monsieur le maire était un sorcier puissant et terriblement vicieux. Il paraîtrait que le fripon organisait des cérémonies lubriques, des messes noires en somme, durant lesquelles il communiquait avec les esprits de l'enfer. La Dorina faisait partie de ces bacchanales nocturnes, et certaines de ces réunions interdites avaient lieu au manoir. Le maire, son ange protecteur, un prêtre du démon. Cette idée faisait son chemin. Par peur ou par dégoût de l'irrationnel, il n'avait pas voulu se rendre à l'évidence et mettre un nom sur cette étrange silhouette qui était apparue sur ses épreuves fantômes et désignait son bienfaiteur. Peut-être s'était-il aussi laissé berner par le pouvoir et la respectabilité. Il n'avait surtout pas su anticiper la noirceur de ce paradoxe psychologique, pourtant tellement banal, selon lequel celui qui aide et protège se confond souvent avec celui qui nuit et brutalise. Quoi qu'il en soit, il venait d'identifier son adversaire en la personne de monsieur le maire. La veuve Marceau, secouée encore de spasmes, gisait entre ses bras. Il avait peut-être poussé le bouchon un peu loin. Avant de tourner de l'œil, elle prit la peine de l'avertir. Cette tarasque de mère, garde-toi bien d'elle. Que si elle tarpionne, elle te lâchera pas avant de t'avoir chappé entièrement. Désormais, il savait à quoi s'en tenir. Au manoir, il consacra une partie de la nuit à préparer une nouvelle plaque. Il avait fixé au berceau un poids de 2 kg qui le dispensait d'exercer une pesée pénible sur l'outil. Il avait adapté en outre un long manche qu'il avait fabriqué lui-même pour faciliter le mouvement régulier du berceau. Il lui suffisait de déplacer la plaque sous le berceau en mouvement pour obtenir un grenage régulier satisfaisant. Bercer était un exercice long, répétitif, qui pourrait être lancinant s'il ne le disposait pas en même temps à la méditation. Il laissait tranquillement sa conscience faire son office. Il s'endormit au petit matin sur le bureau de sa chambre, couché le front contre sa plaque. Quand il se réveilla, la plaque avait laissé son empreinte, comme cette marque que certains musulmans portent au front en signe de ferveur. Religieusement, il saisit son berceau et reprit le travail. Les volets de sa chambre étaient parfaitement clos. C'est au cœur des ténèbres, les yeux grands ouverts, les pupilles et l'esprit dilatés que les lumières de la raison éclairent le mieux. Sa situation n'était pas brillante. Il avait la sensation d'être 5 jours sur 7 un pauvre type. Au sens figuré comme au sens littéral d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il foutait là? Dans ce bled, dans ce manoir en ruine, dans cette contrée hostile. Il devait prendre la décision de partir. Ses yeux s'étaient accoutumés à l'obscurité qui conditionnait l'espace en demi-teinte. Seul un fin ray de lumière perçait les volets grâce à un minuscule pertuis et projetait en négatif l'ombre renversée du monde sur le mur opposé. C'est la première fois qu'il était témoin d'un tel phénomène. Le soleil devait frapper fort parce qu'il voyait distinctement se détacher les ruines, la frondaison des arbres qui s'agitait au vent, le portail de fer, l'entrée de la crypte au loin, et une silhouette. La silhouette. Le sténopé lui donnait à voir la silhouette du maire. Il se frotta les yeux, encore alourdis par le sommeil, pour s'assurer qu'il ne s'agissait pas encore d'une vision trompeuse, et, renversant sa chaise, bousculant son bureau, comme un ingénu qui crie au secours, poursuivi par les fantômes de son imagination, bondit hors de cette camara oscura, inattendue qui lui servait quotidiennement de chambre à coucher. L'élu l'attendait. Une déesse 5 était garée derrière le portail. Lui, hiératique. Le pied sur une vieille pierre angulaire qui avait appartenu à l'édifice médiéval et devait faire office de clé de voûte. Dites-moi quel aquilon vous amène. Blazer cintré, iPhone dégainé, mais sans chauffeur. Mon cher baron, j'ai croisé hier un amateur de gravure, c'est un notaire qui a une étude à Oped. Je lui ai bien sûr parlé de ton travail, il aimerait te visiter dans ton atelier. Crois-tu qu'il soit possible d'organiser une petite rencontre? Ce soir même, par exemple. Serais-tu libre? Il est des propositions qui se refusent difficilement. Le maire tenait indubitablement le maître par les couilles. Il lui devait une grande partie des commandes qui lui assuraient sa subsistance et lui donnait accès, chaque fois que le besoin s'en faisait sentir, à la notabilité cultivée, indifférente aux crises et aux vicissitudes de la vie économique, et qui pouvait s'offrir le luxe d'une de ses manières noires. Quoi qu'il fît ou qu'il dît, l'élu le maintenait systématiquement en position d'obligé, ce qui rendait toute requête compliquée. Dorina est morte au manoir à l'entrée de la crypte. J'ai cru qu'elle rôdait près de chez moi après sa séance de pause, mais j'ai découvert que la crypte est le lieu de cérémonies étranges et qu'il est bien possible qu'elle ait eu son accident alors qu'elle s'y rendait. Le maire feignait mal l'étonnement. Des cérémonies étranges, tiens donc. Prévôt lui montrait l'entrée de la crypte pour l'inviter à le suivre, mais celui-ci n'y tenait sans doute pas. Et je crois que vous n'y êtes pas complètement étranger, n'est-ce pas? Le maire réfléchit un instant avant de décider quel ton et quelle humeur, colère ou ironie, allaient gouverner ses paroles. Étranger à quoi donc? Aux cérémonies ou à la mort de cette chère Dorina? Dit-il en adoptant un air faussement offensé. Rendez-vous ce soir à la mairie, une voiture vous attendra. Et désignant le claveau sur lequel reposait son pied, il ajouta « Je vous promets de vous donner les éléments qui vous manquent pour comprendre ce mystère. » « Effectivement, une voiture l'attendait place de la mairie. Le chauffeur était un employé municipal qu'il avait déjà vu. Celui-ci lui demanda de se laisser mettre un bandeau sur les yeux. Il accepta, non sans demander quelques mots d'explication. « J'ai ordre de vous conduire auprès du vénérable sage de l'ordre du White Spirit. » Avec un tel titre, Prévost redoutait une secte ésotérique, raciste et antisémite. Il s'imaginait déjà dénoncer au MRAP ce groupuscule fasciste. Quand on lui retira enfin le bandeau qui lui couvrait les yeux, il fit face à une vingtaine d'individus encapuchonnés. Il reconnut immédiatement la voix gutturale du maire, qui lui répondit comme si ses pensées fussent libres d'accès. Maître Prévost ne voyait dans cette référence au solvant que les graveurs privilégient dans l'atelier aucune allusion raciste. La salle où il se trouvait était vaste et somptueuse. La voûte était soutenue de nombreux piliers de pierre. Une table, démesurément longue, était dressée avec toutes les apparences du luxe. Tout un raffinement d'apparat. Tentures, broderies, chandeliers, carafons, services de cristal, porcelaine et argenterie. Ce genre d'objets précieux et ostentatoires qui signalent le cadre d'un cérémonial. Les 20 cagoules siégeaient là et regardaient Prévost sans bienveillance apparente. Un feu gigantesque chauffait la salle, mais malgré le faste, le remugle dominait. Cela sentait l'humidité mêlée à une odeur sous-jacente d'animal putréfié. Il ne faisait aucun doute que cette pièce démesurée, sans ouverture apparente, était souterraine. Autour de l'âtre, du personnel s'affairait. Nous sommes une loge issue de la franc-maçonnerie, et ce qui nous réunit est une passion esthétique commune. Nous sommes des amateurs et des collectionneurs d'estampes spécialisées en quelque sorte, et c'est un honneur de vous accueillir parmi nous. Voyez-vous, ce soir, je suis récompensé pour le travail que j'ai accompli en vous installant au manoir. Voilà 20 ans que notre organisation se réunit et prospère. Nous avons décidé de louer les services d'un graveur de talent pour immortaliser nos rites. Votre travail, et plus particulièrement vos illustrations des malheurs de Justine, nous ont convaincus que vous seriez notre homme. Nous avons l'immense honneur de vous proposer la charge de graveur officiel de l'ordre des White Spirits. Les paroles du maire furent suivies d'une ovation. Les applaudissements étaient dirigés vers Prévost, lequel était d'emblée soulagé par ce discours qui le flattait, qui montrait à quel point il s'était mépris sur les intentions du maire, et combien ses inquiétudes étaient sans fondement. Vous remarquerez que nos armoiries sont à l'effigie des graveurs. Les quatre branches de l'équerre et du compas sont remplacées ici par pointe sèche, burin, grattoir et brunissoire. Quant au cirquette Jean Leblanc, au centre, il est l'emblème, bien sûr, de l'ordre sacré des White Spirits. Le maire conduisait Prévost vers la collection d'estampes privées. Il soulevait un rideau derrière lequel se trouvait une gravure de format grand aigle et d'un ton docte lui expliquait les principes qui avaient présidé à l'élaboration de ces gravures. Notre ordre s'attache à la recherche savante des combinatoires émotives. L'expression des émotions primaires dans l'analyse cartésienne se borne à l'admiration, la joie, la tristesse, le dégoût, la colère. Il est dit qu'elles peuvent se combiner à l'infini. C'est pourquoi nous explorons les émotions ambiguës et contradictoires où la joie fraye avec la tristesse, L'amour avec la haine, la surprise avec l'indifférence, la joie avec la souffrance, la répugnance avec l'adoration, l'extase avec l'affliction. Mais voyez-vous, nous avons la conviction qu'il existe une émotion qui est la somme de toutes les autres. Comme la lumière est la somme de toutes les couleurs, si vous voulez. Or, cette émotion intégrale, lorsqu'on a la chance de l'éprouver, contient un souffle vital qui accroît l'espérance de vie. Notre Graal est là, dans la maîtrise du White Spirit, qui accroît la longévité et procure une félicité absolue. C'est tout l'enjeu du cérémonial auquel vous allez assister. Votre rôle, en tant que graveur officiel de l'ordre du White Spirit, consiste à saisir sur le vif l'expression de ces émotions multiples pour en extraire la quintessence. Et votre grande œuvre consistera à le monumentaliser. Prévost, insensible à ce genre de théorie vitaliste, tâchait de dissimuler sa réserve du mieux qu'il put. Il prit place dans le fauteuil qu'on lui désignait. Il eut la conviction à cet instant que quelque chose se cachait derrière les épaisses tentures qui couvraient les murs suintants. Le maire s'exclama joyeusement. « Toute expérience exige des cobayes, n'est-ce pas ?» Prévost sursauta. Le maire venait de soulever un rideau derrière lequel gisait un homme nu. « C'est ainsi que vous avez traité Dorina, n'est-ce pas ?» Il regarda horrifié le maire qui éclata de rire. « Ah, cette chère Dorina !» Dorina n'était pas seulement cette vieille paysanne que vous avez fréquentée. Elle était aussi une fidèle prêtresse du White Spirit, et elle se prêtait bien volontiers au petit jeu de notre confrérie. Rassurez-vous, maître, ce cobaye est également consentant. Il sait qu'il va participer à une expérience un peu rude pour les nerfs. Le vilain que vous voyez là a du reste été choisi pour sa robustesse, et il a largement été rétribué pour participer à cette expérience. Prévost devinait que toute révolte était vaine pour le moment, et qu'il était en présence de fanatiques, dont la radicalité n'allait pas tarder à se manifester. Cet homme va être soumis à une série de tests qui vont provoquer chez lui une succession très rapide de réactions émotives qu'il faudra essentialiser par votre trait de crayon. Vous rassemblerez ensuite, en une seule gravure, tous vos croquis. Tous les ustensiles nécessaires après vous pour dessiner étaient à sa portée. L'homme nu, recroquevillé au sol, était inerte. Il était encadré par deux membres de la confrérie, à l'allure spectrale que les cagoules et les tuniques maintenaient dans l'anonymat. Celui de droite se leva et d'un coup de pied le réveilla. L'homme nu, c'était Alban. Le vieil Alban. Prévost, d'abord surpris, se demanda s'il n'éprouvait pas un peu de plaisir à voir son ennemi intime dans une posture si humiliante. Après tout, n'avait-il pas menacé de l'exécuter ? Prévost avait saisi un carnet et s'apprêtait à dessiner. À ce moment précis, Alban reconnut le maître graveur. Il hurla des insultes en patois et s'apprêtait à bondir sur lui. Une rage folle le défigurait. Le vieil Alban était heureusement retenu par on ne savait quoi, tandis qu'il continuait à invectiver le graveur alors complètement ahuri, le maire lui glissa à l'oreille « Ne vous laissez pas impressionner, il ne vous arrivera rien. Tâchez simplement de remplir votre office de graveur attitré. » Prévost se mit au travail fiévreusement. Le spectre à cagoule à la droite du vieil Alban se mit consciencieusement à l'étrangler. La stupeur se lisait sur son visage. Puis une crainte franche et contagieuse l'emporta. Tandis qu'on lisait encore un éclat de colère dans son œil révulsé, on le força à s'asseoir et à boire du vin. Il but volontiers. D'abord par angoisse, puis par habitude, et la crainte fit place à l'audace. Le spectre de droite, qui maintenait toujours Alban immobile, relâcha son emprise et se plaça devant lui. Il défit alors sa tunique et découvrit son corps de femme. Un corps nu, solide et charnu. Alban déglutit. Son audace était teintée de plaisir. Et c'est avec une fureur joyeuse qu'il prit les fesses de la femme à pleine main. Entre ses seins énormes, il plongea sa face d'ivrogne, haletante, et comme un nourrisson qui cherche instinctivement le mamelon, il montait à l'assaut du téton en grimaçant. Ivresse, contentement, apaisement, les expressions de son visage se métamorphosaient à une vitesse phénoménale. Prévost, pas un seul instant n'avait cessé de dessiner. Le maire, qui n'aimait les protocoles qu'à la condition qu'il participe de sa personne, se leva, entra en scène et se plaça derrière Alban. Il releva soudain sa tunique, saisit alors le vieux paysan et, le prenant par les hanches, outragea d'un coup de rein violent son intimité. Le maire sodomisait le pauvre cutéreux. Le vieil Alban bavait et hurlait de douleur, et pourtant, il ne faisait aucun doute que le plaisir n'était pas loin et que, peu ou prou, celui-ci allait même l'emporter. Sans doute le vilain sentait-il la jouissance poindre par-delà l'humiliation quand il s'agrippa, pour soutenir les assauts du maire, à la tunique que portait le spectre positionné à sa gauche, lequel n'avait pas encore bougé depuis le début de la séance. Et pour cause. Prévost crut qu'il était victime d'une hallucination. Il fallut encore un moment avant qu'Alban identifiât celle qui se tenait à ses côtés. Il hurla d'épouvante. Il venait de reconnaître la Dorina. Il se débattit en vain. Le maire tenait bon. Prévost, horrifié, comprit alors d'où venait l'odeur de rat crevé qui flottait dans la pièce. Ils avaient exhumé pour le bon déroulement de leur cérémonie le cadavre de sa chère Dorina. Pouvait-on imaginer un spectacle plus insensé? Un rugissement inouï s'éleva au-devant d'eux. Sous les voûtes de la grande salle retentissait le coït monstrueux du grand sage. Seuls les râles du maire, au comble de la jouissance, se mêlaient aux sanglots du vieil Alban. Et Prévost, comme s'il venait de passer une après-midi à respirer les vapeurs toxiques du naphta, fut pris de nausées et de maux de tête. Le maire, galvanisé par l'expérience, s'écria « Alors, vous l'avez vu ?» Mais de quoi parlait-il ? « Le White Spirit, vous l'avez vu ?» Il avait vu très certainement ce qu'il y avait de plus laid. Le maire et sa clique se plaisaient à avilir de pauvres gens. Ils profitaient de leur pouvoir pour les soumettre à leur désir d'humiliation en échange de piètres récompenses. Prévost ne voyait dans cette esthétique sectaire qu'abomination. Lui, son projet était contraire. Il n'était qu'un don juan amoureux de vieilles dames et tirait son plaisir de leur embellissement. Que le gourou de cette secte illuministe soit sodomite ne le dérangeait en rien. Il était bien lui-même gérontophile et il avait autrefois, avant de trouver mieux, goûté au plaisir de Sodome. La nature doit accueillir tous les vices. Qu'il se serve, en revanche, de son pouvoir pour imposer son délire sur toute une communauté, qu'il trouve bon et jouissif d'humilier des petites gens, il y avait là un surcroît de folie qui le répugnait. Le concupiscence sadique du maire avait beau s'exprimer sans franchir les bornes légalistes, après tout le vieil Alban était une victime consentante, elle n'en était pas moins mauvaise et détestable. Prévost, au milieu de ces illuminés, on pouvait passer pour un esprit sage et éclairé. Bien que ce soit une grande folie de vouloir être sage tout seul, il préféra garder intègre sa sagesse relative et prendre la fuite le plus rapidement. Oui, il avait vu le White Spirit. Et oui, il en ferait une gravure monumentale. Il le promit au maire, sur le ton le plus solennel, et se disait à lui-même que sous peu, il aurait mis les clés sous la porte de son manoir et aurait repris la route de la capitale, sans plus faire de manière.
Oui, mais les ténèbres, ce n'est pas négatif. Enfin, pas pour moi, en tout cas. Les ténèbres, d'abord, il y a une vie dans les ténèbres. Donc, même si on pense que c'est une autre vie, mais enfin, c'est une vie pour moi. Et dans les ténèbres, c'est des ténèbres que peut surgir la lumière. S'il n'y avait pas les ténèbres, on n'aurait pas la clarté, on n'aurait pas la lumière à un moment donné.